Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Le glas qui a résonné dans toutes les églises de France cet après-midi à 15h après le drame de Nice, ville sidérée, meurtrie, 3 personnes assassinées à l'arme blanche ce matin dans la basilique Notre-Dame, 3 victimes de plus du terrorisme islamiste. Nous irons à Nice dès le début de ce journal. Le procureur antiterroriste vient de donner les premiers éléments de l'enquête, nous l'écouterons, nous entendrons également la sidération et la tristesse de la communauté catholique. Surveillance renforcée dans tout le pays, en particulier autour des lieux de culte en cette veille de la Toussaint. 4000 militaires supplémentaires déployés sur tout le territoire. Dans tout juste 2 heures, le pays va plonger dans un deuxième confinement. Les modalités ont été précisées ce soir par le Premier ministre. Pas de dérogation pour les commerces jugés non essentiels. Télétravail obligatoire quand c'est possible et nouveaux protocoles sanitaires dans les écoles. Le temps de demain, beaucoup plus d'éclaircies au sud, mais toujours de la grisaille au nord, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a clôturé à l'équilibre, moins 0,03% à 4569 points. Tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les fleuristes très remontés par le nouveau confinement. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Franck Poncet, président du directoire d'Emova Group, leader de la vente de fleurs en détail. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Troisième attentat en un mois, troisième attaque au couteau et 3 morts de plus. Donc ce matin, 2 femmes et un homme assassinés en plein cœur de Nice où l'on vous retrouve, Frédéric Michel. Le terrorisme a donc encore frappé 4 ans après la tuerie de la promenade des Anglais. Et cette fois, c'est un lieu sacré qui a été visé, une église.
Effectivement, la basilique Notre-Dame de Nice, située au cœur de la ville, à 2 pas de la gare, c'est d'ailleurs en gare centrale, après visionnage de nombreuses images vidéo, que le terroriste présumé est vu pour la première fois. Il est 7h11. Une heure plus tard, l'homme sort de la gare et prend la direction de l'église. Il y rentre à 8h29 et commence à faire ses premières victimes. Daniel, le serveur d'une brasserie voisine.
On a vu une femme partir en courant. Partez, il y a un attentat, il y a des meurtres. Donc du coup, tout le monde est parti. Et ensuite, quelques minutes après, on a entendu les coups de feu.
À 8h58, l'assaillant est neutralisé par des policiers municipaux qui font usage de leurs armes. Le terroriste est touché par plusieurs balles et alors que des secouristes prodiguent les premiers soins à même le sol, l'homme revendique son action en criant de nombreuses fois « Allah Akbar ». Dans une ville déjà meurtrie par l'attentat du 14 juillet 2016, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des petits groupes se forment, on parle, on débat avec parfois des idées radicales. On a trop attendu, il faut être sans pitié avec ces individus et leurs familles, explique un badaud. Un peu plus loin, une femme en colère dit craindre l'amalgame avec l'ensemble des musulmans de France.
Moi je n'ai pas peur, je suis musulmane, je donne mon nom, je montre mon visage, je n'ai pas peur de ces gens-là. Des gens qui se considèrent comme des musulmans, c'est pas des musulmans. C'est pas possible qu'on tue. Pourquoi on coupe la tête?
Vous avez raison.
Alors les musulmans.
On est là.
Alors nous allons dormir à Notre-Dame aujourd'hui pour dire que non, ça suffit.
Alors ce soir, Notre-Dame n'est toujours pas accessible. Quelques bouquets de fleurs ont été déposés et des bougies ont été allumées sur le trottoir d'en face. Vers 20h environ, 150 personnes de la mouvance identitaire sont venues déposer une gerbe devant la basilique et entonner une Marseillaise.
Merci Frédéric Michel en direct de Nice où le procureur antiterroriste vient de donner les premiers éléments de l'enquête. On l'écoute.
Saisissant l'auteur des faits, il était porteur au moment de son interpellation d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Par ailleurs, l'intéressé est inconnu au fichier national des empreintes digitales. Il est également inconnu des services de renseignement. Il était entré en Italie via Lampedusa le 20 septembre dernier. Dans un second temps, il a débarqué à Bari le 9 octobre 2020. L'enquête se poursuit donc activement afin de préciser le déroulement précis des faits, le parcours de l'auteur ainsi que les éventuelles complicités dont il a pu éventuellement bénéficier.
Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste au micro de Nathalie Chevance, envoyé spécial d'Europe 1 à Nice. Une ville donc à nouveau meurtrie, à nouveau frappée par le terrorisme islamiste. L'une des 3 victimes de ce matin travaillait dans la basilique Notre-Dame. Il s'appelait Vincent, c'était le sacristain, salarié laïque de la paroisse, chargé de l'accueil, de l'ouverture des portes. C'est lui aussi qui organisait la bonne tenue des messes et des cérémonies. Une figure de Notre-Dame que pleurent ce soir les fidèles comme Laura.
Je le connais très bien, c'est un Matarouas. Il était tout le temps souriant, il était timide. Il secondait le prêtre, c'est pas que quelqu'un qui fermait l'église et qui ouvrait l'église le matin, non. Vous rentrez à n'importe quelle heure, Vincent était là, il était assis. Il gardait cette église propre et c'était chaleureux, c'était bien chauffé, ce qui fait que d'autres personnes qui n'étaient pas de la même confession rentraient là-bas pour s'asseoir, se reposer. Il les accueillait, il leur donnait de l'eau. Pourquoi lui ? Pourquoi lui qui aimait tant les gens, il ne criait pas à un homme tolérant comme Vincent même ? Pourquoi notre communauté ? Nous, on n'a rien fait. Vincent n'était pas dans la rue, il n'a jamais provoqué qui que ce soit. Il était dans l'église, on l'a tué pour sa foi. Pourquoi ?
Incompréhension et sidération, voilà les sentiments de la communauté catholique ce soir, touchée en plein cœur à la veille des fêtes de la Toussaint. Voilà pourquoi, à l'annonce du drame, nombre de croyants se sont réunis spontanément. Des messes partout en France ont été célébrées en hommage aux victimes de Nice, comme en l'église Saint-Sulpice à Paris, où s'est rendue Caroline Baudry.
À 15h, les cloches ont résonné dans cette grande église où certains sont venus allumer des cierges. Une centaine de personnes s'est installée pour écouter Michel Aupetit, l'archevêque de Paris, et cette messe en l'honneur des victimes de l'attaque ce matin.
Oui, l'important, c'est de rester debout et de ne pas être terrorisé par ceux qui veulent nous terroriser. Car nous savons que le dernier mot sera toujours à l'amour.
L'assemblée est très émue, certains sanglotent ou sont encore sous le choc, comme Guillaume et Judicaël. Ils ont tenu à venir ici rendre hommage aux victimes.
C'est un lieu de paix, de prière, de se dire qu'on peut se faire attaquer comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est très fort et qui est très dur.
Je suis catholique, pas forcément pratiquante, mais aujourd'hui je me sens un peu plus catholique que d'habitude finalement. Un professeur... Des personnes qui bénévolement sont dans une église pour en prendre soin, ça commence à suffire. On ne s'habitue pas.
Des catholiques qui disent revivre aujourd'hui le drame de Saint-Étienne du Rouvray en 2016, où le père Hamel avait été tué dans son église.
Le reportage de Caroline Baudry en l'église Saint-Sulpice à Paris cet après-midi. Au même moment, Emmanuel Macron s'est rendu à Nice pour faire part de son émotion face à ce qu'il a qualifié d'attaque terroriste islamiste. Le chef de l'État a également annoncé des renforts supplémentaires pour protéger les Français.
J'ai décidé que nos militaires seront dans les prochaines heures davantage mobilisés. Et nous passerons la mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle de 3000 à 7000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons ainsi en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier bien évidemment les églises, pour que la Toussaint puisse se dérouler dans les conditions qui sont dues.
Le chef de l'État cet après-midi à Nice. Ce nouvel attentat est donc le troisième en un mois après l'assassinat de Samuel Paty et l'attaque fin septembre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Une menace terroriste omniprésente, étouffante. Guillaume Biel, les autorités étaient d'ailleurs ces derniers jours particulièrement en état d'alerte.
Oui, le type d'attaque perpétrée ce matin, c'est exactement ce que redoutaient les autorités, puisque dimanche dernier, une agence de presse non officielle mais proche d'Al-Qaïda a diffusé un message très explicite qui appelait à commettre ce genre d'attaque meurtrière. Dans les heures qui ont suivi, toujours dimanche, ce renforcement de la menace a été immédiatement pris en compte par le ministre de l'Intérieur, répercuté à tous les préfets dans une note détaillée, 3 pages dont nous avons pris connaissance, et qui fait état noir sur blanc du risque d'attaque à l'arme blanche, avec de nombreuses cibles symboliques potentielles, y compris les lieux de culte. Alors depuis cet attentat, la première mesure, c'est effectivement le plan Vigipirate qui est activé au niveau urgence attentat, c'est le niveau maximal du plan, renforcement des patrouilles, des surveillances autour des lieux de culte et des cimetières, avec le concours des militaires, le chef de l'État vient d'en parler. La sécurité sera aussi renforcée autour des établissements scolaires lundi pour la rentrée, sachant que c'était déjà envisagé avant même cet attentat.
Merci Guillaume Biel, chef du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute qu'un Afghan armé d'un couteau de 30 cm a été interpellé cet après-midi à Lyon, non loin de la gare Perrache. Il allait passer à l'acte, selon le maire du 2e arrondissement. L'attentat de Nice a été unanimement condamné par la classe politique, mais aussi par les autorités religieuses. Le président du Conseil français du culte musulman évoque un acte abject et appelle ses fidèles, en signe de solidarité, à annuler les festivités demain et ce week-end célébrant la naissance du prophète. Notez pour terminer que le maire de Nice, Christian Estrosi, sera demain matin à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
L'autre actualité ce soir, c'est bien évidemment le reconfinement. Il sera effectif à minuit, dans 1h50 maintenant. Confinement pour au moins 4 semaines dans tout l'Hexagone, ainsi que la Martinique. ce ne sera ni tout à fait pareil, entreprises et écoles vont fonctionner, ni réellement différent qu'au printemps, obligation générale de rester à la maison et télétravail. Le Premier ministre a dévoilé ce soir le mode d'emploi de ce nouveau confinement lors d'une conférence de presse et comme nous vous le révélions dès ce matin, il n'y aura pas une, mais trois attestations dérogatoires pour sortir de chez soi. Une pour aller travailler, une pour aller chercher les enfants à l'école, mais aussi celle que nous connaissions au mois de mars pour aller chez le médecin, faire un peu de sport et faire ses courses, ses achats. Oui, mais où ? Quels commerces vont pouvoir rester ouverts ? Jean Castex en a dévoilé la liste et elle est très restreinte, Élise Dangean.
Oui, restreinte au fameux commerce dit essentiel. Et c'est bien simple, ce sont les mêmes que lors du premier confinement. Resteront donc ouverts en vrac les hyper et supermarchés, les garages automobiles, les kiosques de journaux, les opticiens et évidemment les pharmacies. À noter une nouveauté, tous les commerces de gros pourront rester ouverts pour que les professionnels du BTP, par exemple, puissent continuer à s'approvisionner. Bercy y tenait. Cette liste pourrait s'élargir dans 15 jours. Le gouvernement a promis de refaire un point à cette date. En attendant, certains commerçants, comme les fleuristes, plaident pour reprendre leur activité au plus vite, à minima devant leur boutique, avec un argument, les marchés, eux, sont autorisés à ouvrir.
Et dans ce contexte, Élise, le gouvernement a donc renforcé son arsenal d'aide.
Oui, et notamment le fonds de solidarité. À partir du 1er novembre, toutes les entreprises fermées qui ont jusqu'à 50 salariés et non plus 10 pourront être indemnisées jusqu'à 10 000 euros par mois. Idem pour celles dans les secteurs du tourisme, de la culture ou encore de l'événementiel, à condition qu'elles subissent une perte de plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Pour les autres, ouvertes mais très impactées par ce confinement, l'indemnisation jusqu'à 1 500 euros par mois a été rétablie. Un crédit d'impôt va également être mis en place pour inciter les bailleurs à baisser les loyers imposés aux entreprises.
Merci Élise Dangean. Pour les salariés, maintenant, le télétravail sera la règle. 5 jours sur 5, quand c'est possible, Clément Le Saffre.
Oui, la règle est stricte. Hein. Télétravail partout où c'est possible. À partir de demain, le gouvernement appelle tous les salariés qui le peuvent à basculer chez eux. Écoutez la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Le télétravail n'est pas une option. Un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire 5 jours sur 5. Ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail. C'est le cas par exemple dans un bureau d'études pour un ingénieur ou un technicien ou pour un architecte qui a besoin d'équipements spécifiques pour travailler.
Donc des dérogations sont possibles, on l'entend, mais il ne faudra pas essayer de jouer avec les règles. Le gouvernement a prévenu, des contrôles seront menés dans les entreprises dont l'activité est en apparence compatible avec le télétravail. Si des salariés sont présents dans les bureaux alors qu'ils pourraient tout à fait travailler de chez eux, l'employeur s'exposera à des sanctions, sanctions financières, voire pénales, puisque le patron est légalement tenu d'assurer la protection de ses employés. Le salarié, lui, pourra alors être renvoyé à son domicile, sauf si, on l'a entendu, il n'a pas d'autre option. On en saura plus sur les modalités de ce télétravail obligatoire dans la nuit. Hein, le nouveau protocole sanitaire pour les entreprises doit être publié.
Merci Clément Le Saffre. Concernant les écoles, elles continueront donc d'accueillir les élèves jusqu'au lycée avec un nouveau protocole sanitaire. Là aussi, le port du masque sera obligatoire dès le CP, c'est-à-dire pour les enfants de 5-6 ans. Mais le gros enjeu de cette rentrée sous confinement, Virginie Salmen, ça va être de limiter le brassage des élèves, surtout dans les lycées.
Oui, sachant que 100% des élèves doivent retourner en classe, que les cantines vont rester ouvertes, mais qu'il faudra assurer une distance d'un mètre entre les élèves. Pas évident, selon les proviseurs. Les horaires d'arrivée devront être échelonnés le matin et le soir pour éviter les attroupements devant les lycées. Dans la mesure du possible, chaque classe devra rester dans la même salle pour éviter les cohues dans les couloirs. Et ce sont les profs qui vont se déplacer, mais les chefs d'établissement soulignent qu'ils n'ont souvent pas une salle par classe. Les récréations devront être organisées par groupe et si ce n'est pas possible, ça pourrait être un temps de pause à l'intérieur. Les proviseurs pourront décider d'instaurer certains cours à distance pour réduire les effectifs d'élèves.
Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Ils souhaitent à nouveau se marier. LVMH et Tiffany enterrent la hache de guerre. Le géant français du luxe et le joaillier américain annoncent qu'ils vont bel et bien se rapprocher, mais cette fois le prix d'acquisition est revu à la baisse. LVMH a obtenu une ristourne et ne va donc débourser que 15,7 milliards de dollars. Et puis il y a du foot ce soir, deuxième journée de la Ligue Europa. Le LOSC a battu cet après-midi 2-0. Je cherche les résultats en même temps que je vous parle. De partout, pardonnez-moi, le LOSC contre le Celtic Glasgow. Et puis l'OGC Nice est en train de jouer en ce moment face à l'Hapoël Beer Sheva, club israélien. Nice qui mène 1
1-0. La météo, Anissa Haddadi, douceur et soleil au sud demain.
Oui, sur les Pyrénées, le bassin méditerranéen, la vallée du Rhône, les Alpes, la Corse et même jusqu'en Auvergne. Demain, Julien, la journée commence sous le soleil. En Nouvelle-Aquitaine et de la Vendée à la Franche-Comté, bien là, le ciel est couvert demain avec quelques petites éclaircies tout de même. Mais surtout, beaucoup de brouillard demain matin dans ce secteur. Soyez très prudents. Et au nord de la Loire, là, c'est vraiment un autre type de temps. Hein, de la Bretagne à la Lorraine, le ciel est très gris, très couvert. Sur les frontières belges, le risque d'averse persiste encore demain matin. Dans l'après-midi, midi, sur les côtes de la Manche, le vent souffle toujours et puis au fil de la journée, le soleil va gagner du terrain et pas mal de terrain. Finalement, il n'y a qu'en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, région parisienne et Grand Est que les nuages se maintiennent. Ailleurs, il fait très beau, profitez-en. Demain, les températures sont douces avec 9 à 14 degrés au nord sous les nuages. Il fait plus frais demain matin dans le sud parce que le ciel est dégagé avec seulement 4 à 8 degrés. Puis dans l'après-midi, nous aurons 14 à 18 degrés de l'Alsace à la Bretagne et jusqu'à 24 degrés dans le sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Franck Poncet, directeur du président du directoire d'Emova Group. C'est le leader de la vente de fleurs au détail. Les fleuristes qui sont très remontés par le nouveau confinement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1. Merci d'écouter le journal de la nuit.
Et maintenant, Top à Wall Street est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street se reprend ce soir grâce aux valeurs de technologie.
Après trois séances de repli, ça va un petit peu mieux. Ça remonte un petit peu sur le Dow Jones. Plus 0,52%, 26 659 points. Effectivement, ce sont surtout les valeurs de technologie qui rebondissent. Plus 1,64% sur le Nasdaq. 11 185 points en attendant les comptes trimestriels des fameux GAFA avec ceux d'Apple ce soir. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'Apple a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 64,7 milliards de dollars. C'est un petit peu mieux que prévu. C'est tombé après la clôture. Apple a terminé ce soir, donc avant ses annonces, en hausse de 3,7%, 115,32 $. Hausse de Facebook, plus 5%, des rebonds sur Amazon, plus 1,5%, sur Tesla, plus 1%, sur Google, plus 3%. Le pétrole, en revanche, s'enfonce encore sur les craintes concernant l'activité économique aux États-Unis. Le pétrole recule de plus de 3%, 3,3%, 36,17 $ le baril WTI ce soir. L'euro se replie aussi à 1,1670 l'euro face au dollar. Il baisse tout simplement parce que la BCE a fait pas mal d'annonces aujourd'hui, on va en reparler.
La bourse de Paris, pour sa part, a terminé quasiment stable après trois séances de forte baisse.
Trois séances, oui, de chute appuyée puisque le CAC a perdu 7% en l'espace de trois séances. Le CAC 40 a stagné ce soir, 4 569 points. Les déclarations de la Banque Centrale Européenne ont permis de calmer le jeu quand même. La Banque Centrale, par la voix de Christine Lagarde, sa présidente, a laissé entendre qu'elle pourrait agir en décembre, soit par le biais d'une nouvelle baisse de taux, ou bien par de nouveaux achats d'actifs avec un programme encore élargi. Alors l'accalmie est malgré tout fragile en bourse ce soir. On a encore des secteurs qui sont plombés, toujours les mêmes d'ailleurs, hein, l'aérien, le pétrole aussi en baisse. L'aérien, Airbus, moins 0,4%, Air France, moins 3% encore, 2,78 €, Thales, moins 2%. Et puis du côté du pétrole, ça baisse avec le baril. Logiquement, toutes les valeurs parapétrolières en particulier reculent, comme Vallourec, moins 2%, Technip, moins 4% et CGG, moins 6%.
En revanche, et c'est l'exception du jour, le titre Orange a grimpé de plus de 6% après l'annonce de ses résultats trimestriels.
Oui, c'est la satisfaction du jour. Orange, plus 6%, 9,60 €. L'opérateur télécom a confirmé ses objectifs annuels, malgré le contexte difficile. L'EBITDA, le résultat est ressorti fermement à 3,5 milliards d'euros. Donc c'est quasiment stable. On monte sur le chiffre d'affaires, c'est mieux pour le chiffre d'affaires à 10,6 milliards d'euros sur le troisième trimestre. Donc de bons chiffres. Orange en profite, plus 6%, 9,60 € ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, c'est un petit peu mieux à Francfort, plus 0,3%, mais ce n'est pas encore très clair. Amsterdam, plus 0,06%. Londres est stable. Le CAC 40 stagne ce soir à Paris, 4 569 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com et à demain Didier.
À demain.
22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo.
Tout de suite retrouvez l'invité Echo avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Franck Poncet.
Bonsoir.
Vous êtes le président du directoire d'Emova Group. Emova Group, c'est le leader de la vente de fleurs au détail avec des marques aussi connues que Monceau Fleurs, Happy au nom de la rose, Cœur de Fleurs ou encore Blooms. Si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous allez devoir, comme tous les commerces non essentiels fermés, vous avez en revanche une petite dérogation jusqu'à dimanche pour permettre aux Français qu'ils souhaitent de fleurir les tombes des défunts à l'occasion de la Toussaint. C'est un tout petit espoir, ça permet au moins de ne pas jeter tout votre stock à la poubelle.
Alors c'est exactement ça, je tiens à saluer cette décision, cette dérogation. Effectivement, nos concitoyens et concitoyennes pourront fleurir les tombes dimanche pour la Toussaint et ça nous permettra de vendre les chrysanthèmes et de ne pas perdre tout notre stock actuellement en magasin.
C'est un marché important la Toussaint pour vous ?
Oui, c'est un événement important en termes d'activité, mais aussi en termes de solidarité. Les fleuristes ont plusieurs événements dans l'année majeurs, la Saint-Valentin, la fête des mères, la Toussaint et bien évidemment Noël avec le sapin de Noël.
Est-ce que vous comprenez le fait de devoir fermer ?
Je vous avoue que je partage pas la décision et j'ai du mal à la comprendre. D'ailleurs, tous nos fleuristes, artisans fleuristes, commerçants indépendants sont très inquiets. Les fleuristes accompagnent la vie de tous les Français et de toutes les Françaises, du baptême, pour l'anniversaire, pour le mariage, pour les fêtes que je viens d'évoquer. Et c'est assez dramatique pour nous d'être considérés comme non essentiels.
Vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle du click and collect, c'est-à-dire je commande sur Internet, je viens chercher en magasin. Comment vous allez vous organiser ?
Alors, on s'organise à plusieurs niveaux. Le premier point, vous pourrez continuer à faire vos commandes via les intervenants type Interflora ou FloraJet pour la transmission florale. Vous pourrez avoir une livraison offerte par nos enseignes et nos magasins. Vous pourrez également appeler le magasin pour réserver et venir chercher votre bouquet. On pourra mettre en place une forme de drive, puisqu'on peut aussi faire de la vente extérieure. Et effectivement, nos sites marchands e-commerce, monceaufleurs.com et au nom de la rose.fr seront bien évidemment ouverts.
Mais c'est une sorte de palliatif. On peut avoir une idée de ce que, d'après vous, ça va représenter comme chiffre d'affaires par rapport à une période normale ?
Ah oui, ça ne compensera absolument pas les ventes quotidiennes de nos boutiques. On parie à peu près sur peut-être 10% de l'activité qui pourrait être sauvée ainsi.
Mais c'est malgré tout indispensable, par exemple, pour réussir une partie de la période de Noël. Les sapins de Noël, c'est très important pour les fleuristes. Là, à la rigueur, on pourrait dire que le click and collect est presque assez pratique dans ce genre de démarche.
Oui et non, parce que le e-commerce n'est pas encore complètement développé dans toutes les enseignes. Et puis, le mois de décembre, c'est 15% du chiffre d'affaires de l'année. Les sapins peuvent représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires du mois de décembre. Oui, vous pourrez les réserver, mais surtout, ce que l'on apprécie tous et toutes, c'est de venir chercher son sapin, d'avoir le contact avec le fleuriste. Et c'est pour ça que moi, je défends ardemment la vente extérieure en dehors du magasin qui sera bien évidemment fermé. Mais Monceau Fleurs, c'est marché floral depuis 1965. Donc il n'y a aucune raison qu'on nous interdise de faire ces ventes extérieures.
C'est pas certain encore ce point-là ?
C'est en discussion, mais j'ai bon espoir.
Et vous attendez une réponse d'ici quand ?
Très rapidement, quelques jours, j'imagine, pour qu'on puisse s'organiser en conséquence et assurer encore une fois la vente de fleurs, de plantes, pour apporter un petit peu de senteur, de fraîcheur et de couleur dans les maisons. Nous, on est ce petit bonheur du quotidien, ce lien social, et il est absolument incroyable de nous interdire de vendre nos produits correctement.
Un fleuriste sur 7 a déjà fermé avec le premier confinement, ce sont des chiffres officiels de la profession. Est-ce qu'un groupe comme vous, vous allez devoir fermer certaines boutiques, vous allez devoir abandonner certains projets de développement ? Comment ça se passe pour vous ?
Alors, on n'a pas prévu de fermer certaines boutiques. Heureusement, on a des franchisés, entrepreneurs, commerçants qui savent faire du commerce avec de belles marques et de belles enseignes comme Monceau, Nom de la Rose, Cœur de Fleurs ou Happy. On a la possibilité de soutenir nos partenaires et de tenir nos magasins. Là où je suis plus inquiet, c'est effectivement pour les 13 à 14 000 fleuristes indépendants en France qui déjà ont fermé leurs portes pour plus de 2000 d'entre eux, et on annonce au moins la même catastrophe pour ce deuxième confinement. On s'attend à perdre encore 2000 fleuristes.
Un point d'étape sera fait dans 15 jours. J'imagine que vous allez tout faire pour pouvoir rouvrir à ce moment-là.
Oui, absolument. On essaye de sensibiliser l'administration et tous les politiques en disant que ça serait une véritable catastrophe pour la filière horticole en France et pour les floristes. Et même si nous, on peut défendre nos magasins, de faire comprendre qu'il y a des options. Donc, on fait des propositions.
Vous avez un petit espoir ?
Oui, honnêtement, je l'espère, de tous mes voeux.
Eh bien, on va suivre tout ça. Un grand merci, Franck Poncet, le président du directoire d'Emova Group, qui détient notamment Mont-Saulfleur. Merci. On se retrouve demain sur Europe 1 à 22h20.
Merci, Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec Chronopost. Chaque jour, Chronopost accompagne les PME françaises. Chronopost, l'expert de vos livraisons à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Restez avec nous dans un instant. On va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. À tout de suite sur Europe 1. Et voici à 22h28 ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Un mot, un seul, à la une de La Croix. Tenir, tenir face à la violence islamiste qui a fait 3 nouveaux morts ce matin à Nice. Pour cela, 2 principes doivent nous guider, écrit Guillaume Goubert dans son édito. Le premier est de laisser aux autorités publiques la tâche de réprimer la violence fanatique en appliquant les lois de la République aussi sévèrement que nécessaire. Le deuxième, refuser d'identifier tous les musulmans à cette barbarie. Et ce n'est pas facile tous les jours, ajoute l'éditorialiste, car il s'est trouvé plus d'un fidèle de cette religion pour justifier des actes effroyablement sanglants. La tâche qui attend spécialement les chrétiens est de rencontrer leurs voisins musulmans afin de les convaincre de se séparer radicalement des assassins qui disent agir en leur nom. Voilà comment conclut l'édito de Guillaume Goubert. La spirale de la terreur, c'est le titre de Libération, accompagné d'une photo de la basilique Notre-Dame où policiers et techniciens s'affairent sur les marches de l'église. Le poison de l'intolérance, écrit Alexandra Schwarzbrod, dont l'édito commence ainsi. Entre épidémie et guerre de religion, le monde semble être brutalement revenu au Moyen-Âge. Et singulièrement, la France qui paie cher son engagement à défendre, quoi qu'il arrive, la liberté d'expression. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va, je sors d'une petite intervention, d'où ce phrasé un peu difficile ce soir, mais voilà, ça va s'améliorer. Je devançais, puisque je sais que vous avez l'oreille et que vous auriez perçu ce petit sifflottement émanant de ma bouche.
Ouais, c'est très léger. Les auditeurs peuvent, en tout cas dès maintenant et même depuis quelques minutes, vous appeler au 3921 pour intervenir dans votre libre antenne.
Exactement, et je pense que en cette journée plus particulière que particulière, ils seront beaucoup à vouloir peut-être raconter ce qu'ils ressentent devant tant de cruauté, de sauvagerie. Et j'espère qu'ils seront nombreux à prendre la parole ce soir.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Julien.